enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Deutéronome chapitre 28, verset 8. Que notre bénédiction de ce mois. J'ai eu donc à la commencer avant de partir en voyage. Et puis, nous allons continuer jusqu'à la veillée pour terminer ce thème. Il est dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Donc Dieu, très haut, la parole dit que Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Amen. J'ai cité, dans notre thème, nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Nous avons répertorié 12 sur la base de ce passage, donc 12 qui annoncent, qui disent certaines faveurs que Dieu va nous accorder. Mais ici, dans celle-là, plus particulièrement, Dieu dit qu'il va ordonner à la bénédiction. Et je vous ai expliqué, la dernière fois de partir, que cette faveur-là est très particulière. Elle ne dit pas que vous n'aurez pas d'épreuves, que vous n'aurez pas de difficultés, mais elle dit que la bénédiction va te poursuivre. La bénédiction est avec toi. Et quand tu vas entreprendre quelque chose, quand tu vas entreprendre une activité, cette activité-là va prospérer, cette activité sera bénie. Je vous ai donné pour exemple Joseph et Jacob qui avaient la bénédiction qui les accompagnait. Malgré le fait que Joseph ait connu des temps difficiles, rejeté par sa famille, par ses frères, la bénédiction était avec lui. Arrivé chez Potiphar, tout ce qu'il touchait dans la maison de Potiphar était béni. La bénédiction était avec lui. Malgré cela, ce n'est pas parce qu'il était béni qu'il ne peut pas avoir des problèmes. Le diable a profité de cela pour lui créer de sérieux problèmes. Par Madame Potiphar, Joseph s'est retrouvé dans la prison avec un mauvais nom, avec un mauvais témoignage, avec une mauvaise réputation. Dans la prison, la bénédiction était avec lui. La Bible dit que même là, tout ce qu'il touchait dans la prison était béni, au point où le chef de la prison l'a mis comme chef des prisonniers. Et de la prison, Dieu va l'élever, il va l'amener jusqu'au trône, il va devenir gouverneur d'Égypte, premier ministre d'Égypte. Après Pharaon, c'était lui. Alléluia. Et là même encore, lorsqu'il sera en Égypte en train de gérer les biens de la maison de Pharaon, l'Égypte va être bénie parce que tout ce que cet homme-là touche est béni. Cette faveur-là, comme je l'ai dit, lorsqu'elle est dans la vie d'un enfant de Dieu, elle est présente comme un ballon. Amen. C'est comme un ballon qu'on a gonflé. Le ballon, quand vous l'avez gonflé, si vous le laissez par terre, mais dès qu'une force vient contre lui, le ballon a une réaction immédiate. Amen. Si vous l'enfoncez dans de l'eau, le ballon va ressortir en fonction de la profondeur à laquelle vous l'avez amené. Amen. Vous l'enfoncez un tout petit peu, il va ressortir un tout petit peu. Vous l'enfoncez profondément, le ballon va ressortir avec force. Et j'ai dit que Dieu vous a béni de cette bénédiction. Amen. Quelle que soit la position que le diable va essayer de vous donner, vous allez ressortir de manière victorieuse. Il faut que vous puissiez croire cela. Le diable ne peut pas vous arrêter. La bénédiction ne dit pas que tu ne souffriras pas. La bénédiction ne dit pas que tu n'auras pas d'épreuve. La bénédiction ne dit pas cela. Mais la bénédiction dit, quand elle est prononcée, lorsqu'elle te poursuit, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu t'amène à sortir. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre plusieurs années, mais Dieu va te faire sortir. Dis à ton voisin, tu vas t'en sortir. Dis à ton voisin, tu as un ballon gonflé. Non, frère, dis avec conviction. André, comment tu ne crois pas? Dis-lui. Alléluia. Mon ami, tu as un ballon gonflé. On ne peut pas t'arrêter. Peut-être qu'il y en a aujourd'hui qui sont le ballon que le diable maintient enfoncé dans l'eau. À une profondeur, il ne veut pas te laisser partir. Il ne veut rien te laisser faire. Tout ce que tu touches, tu as l'impression que c'est bloqué. Pourquoi le diable s'acharne sur toi? Remarque une chose. Lorsqu'un homme est choisi de Dieu, le diable s'acharne sur lui de manière particulière. Lorsque Moïse allait naître, à cause de lui, le diable a fait tuer tous les enfants. Quand Jésus aussi est né, ce fut pareil. Vous voyez, depuis ton enfance, tu vois que tous tes problèmes dans ta vie, tu es malade souvent, Satan s'acharne sur toi, les sujets te veulent du mal, c'est que tu es dangereux. On ne s'acharne pas sur une personne qui peut rien faire. Satan arrive à détecter très tôt les gens qui sont bénis. Jésus était à peine né que les mages ont vu que le roi des Juifs est né. Eux, ils sont venus avec de bonnes intentions. Maintenant qu'ils voient ça, ils veulent le tuer. C'était le cas de Hérode. Alléluia.
Alléluia. On a l'habitude de le dire. De toute façon, un voleur ne vient pas voler quelqu'un qui n'a rien. Si le voleur est contre toi, c'est qu'il y a quelque chose qui est sur toi. Peut-être toi-même tu ne sais pas. Mais c'est qu'il y a quelque chose. Comme on le dit, si tu vois quelqu'un qui marche nu dans la ville, si tu vois un voleur qui vient pistolet pour dire donne-moi, tu vas dire que le voleur est fou. Amen. Mais le voleur n'est pas fou. Tu penses que Satan est fou? Tu penses que le diable est fou? Il n'est pas fou. Si ça s'attaque à ta vie, c'est que tu as quelque chose.
Alléluia.
Mais peut-être tu ne le sais pas. Et ta vie est comme un ballon. Autant le diable va, plus le diable va t'enfoncer, plus tu vas ressortir avec puissance. Je veux que tu reçois ça comme une prophétie. Dieu le fait. Dieu le fait. Alléluia. Mais j'ai dit que quand vous êtes le ballon, quand le diable vous enfonce, vous avez de l'air. Il y a une seule possibilité pour ne pas que vous ressortiez, c'est que vous-même, vous fassiez harakiri. Harakiri, ça veut dire que vous vous suicidez. Ça dit dans la profondeur, là, comme vous êtes ballon, vous êtes découragé, vous dites, depuis que je suis chrétien, je suis à 10 mètres de profondeur. Quand tu es un ballon, le diable te maintient. Dès qu'il va te lâcher, si tu es en faisant 10 mètres de profondeur, peut-être tu vas sortir à 11 mètres de hauteur. Amen. Et toi-même, dans la profondeur, tu te décourages, tu prends une aiguille, et puis tu pèses ton ballon. L'air sort, et puis tu es mort sous l'eau. Mais tu ne dois pas te suicider. Tu dois rester fidèle. Dieu nous a bénis. La bénédiction dont je parlais tout à l'heure, quand j'ai parlé de Jacob et d'Ésaü, de toutes ces personnes-là, vous voyez, vous avez l'impression que Dieu triait et Dieu ne répandait pas la bénédiction sur tout le monde. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'est plus vrai aujourd'hui. La bénédiction de Dieu est ouverte à toutes, à tous les croyants. La Bible dit que vous êtes un peuple élu. Dieu nous a choisi. La Bible dit, vous avez été bénis de la bénédiction d'Abraham. Tu es béni. Tu es béni. Mais tu sais, avoir une voiture et en jouir, c'est deux choses différentes. Avoir une faveur et jouir de cette faveur, c'est deux choses différentes. Amen. Alléluia. Dieu peut bénir un homme en lui donnant une femme. Mais s'il ne sait pas l'entretenir, s'il ne sait pas s'occuper d'elle, il n'aura pas tous les merveilleux trésors que la femme a. C'est pas que la femme n'est pas chez lui à la maison. La femme est dans la maison. Alléluia. Mais peut-être que tu es une femme extraordinaire, tu es une femme capable de faire de grandes choses. Mais comme tu la méprises, tu ne sais pas t'en occuper, tu ne sais pas prendre soin de la personne, elle ne te donne pas ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Donc ce n'est pas que la bénédiction n'est pas là. Dieu te dira, je t'ai donné la femme. Mais tu as quelque chose à faire. Amen. Ça peut être un boulot. Dieu te bénit d'un boulot. C'est une bénédiction. Mais l'attitude que tu auras dans ton activité va déterminer si tu vas jouir des bienfaits de ton travail ou pas. Une chose est d'être béni et une chose est de jouir de la faveur. Alléluia. Beaucoup de gens sont bénis, nous sommes bénis, mais nous n'en jouissons pas. Nous n'en jouissons pas parce que quelquefois nous avons des attitudes. Et c'est de cela que nous voulons parler. Amen. Je vous ai expliqué il y a deux dimanches que cette bénédiction-là, parce que Dieu la promet dans votre vie, et elle a cette particularité, c'est qu'elle vous poursuit. Elle vous accompagne. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, mais elle est là. La parole vous suit. Et cette parole-là, elle était dans la vie de Jacob. Quand Jacob s'est retrouvé devant Laban, il a connu des années de difficultés, mais la parole était là. Cette année, il attendait son mariage, mais la parole était là. 14 ans, il attendait sa femme, mais la parole était là. Et la parole a donné son fruit. En un rien de temps, il est reparti avec pratiquement tous les biens de Laban. Laban n'a rien compris. Pourquoi? Parce que la bénédiction était avec lui. Alléluia. Mais Jacob, même chez Laban, devait avoir une attitude. Et c'est de cela que je parlerai aujourd'hui. Amen. Je vous ai expliqué la dernière fois. Je vous ai dit que j'allais parler de la clé de David. En fait, c'est de ça que je parle. Amen. Les hommes qui ont joui de cette bénédiction de Dieu ont eu une certaine attitude. Une attitude que j'ai appelée comme la clé de David, par laquelle Dieu vous bénit, Dieu vous prononce la parole, et puis la bénédiction là devient active de manière courante, régulière dans votre vie. La Bible dit qu'il faut hériter la bénédiction. Amen. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 9, il dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction. La Bible dit que vous êtes béni, mais Dieu nous dit ici, il faut qu'on l'hérite. Il faut que, l'héritage dont on est en train de parler, c'est qu'il faut qu'on la manifeste. Il faut qu'on manifeste le cadeau que Dieu nous a fait. Amen. La bénédiction avec toi, il faut la manifester. Et donc nous sommes dans la clé de David. Et pour illustrer l'histoire de la clé de David, j'avais pris deux exemples. J'ai pris l'exemple de la femme qui a fait l'offrande du parfum à Jésus. Amen. Et ça, en fait, c'est le secret de cela que je vais expliquer. Amen. Cette femme-là était prostituée, elle était rejetée. Mais elle arrive, elle regarde Jésus, et elle a une certaine considération, un certain respect. Et c'est de ce respect-là que je vais vous parler. Il est très important de respecter les choses de Dieu, d'avoir de la déférence pour tout ce qui concerne le Seigneur. Ce qui fait que lorsque la femme a regardé Jésus, elle a vu en Jésus ce que même les apôtres qui fréquentaient Jésus ne savaient pas. Elle a vu que celui-là était plus grand que tous les rois. Elle a vu que Jésus-Christ était merveilleux. Elle a pris un parfum qu'on a l'habitude d'offrir au plus grand roi à cause de sa cherté, à cause du prix. Et elle, elle a pris, elle a juste cassé pour passer au pied de Jésus. Les gens ont été indignés, voyant autant d'argent parti. Amen. Mais la femme savait. Et Jésus a dit, cette femme-là a fait ça pour ma sépulture. Ce qu'elle a fait a touché le cœur de Jésus. Et Jésus a prononcé une parole de bénédiction. Il dit, aussi longtemps qu'on parlera de moi, on parlera de cette femme. Cette femme a déclenché dans sa vie ce qu'on appelle la clé de David. Mais c'est venu de quoi? D'une grande considération du Seigneur. Quand les apôtres se sont plaints, particulièrement Judas, ils ont dit, on aurait pu offrir cet argent aux pauvres. Vous voyez? Ils ont préféré une œuvre qui était déjà bonne. Mais ils ne se rendaient pas compte de la grandeur de Jésus. Je ne crois pas qu'ils auraient été offusqués si cette femme-là venait offrir ce parfum-là à César. Vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? S'ils se trouvent avec une femme qui est dans leur groupe, et puis ils arrivent vers César, alors c'est à César, ils vont dire, ah, quand même, c'est César. Ok? César, c'était l'empereur de l'instant. Amen. Vous comprenez? Donc, l'image, ils croyaient en Jésus. Ils croyaient en Jésus. Ils priaient Jésus. Mais ils avaient une image de Jésus. Il le prenait comme un simple homme. Surtout Judas. Il savait qu'il avait la parole. Il savait qu'il avait l'onction. Il guérit les malades. Mais il y a une considération qu'il n'avait pas. Cette femme-là, pourquoi elle a touché le cœur de Jésus? Parce que justement, elle a vu ce que les autres n'ont pas vu. Quelle est cette attitude-là que vous devez développer pour voir ce que les autres ne verront pas? Parce que vous allez voir cela, vous allez poser des actes qui vont tellement réjouir le cœur de Dieu que Dieu sera chatouillé, provoqué dans le ciel. La dernière fois, il dit provoquer Dieu, non? Et tu fais un jour que. Aïe. Rien te prononce. Quand c'est sorti de sa bouche, c'est fini. La bénédiction te poursuit. Ça te poursuit. Tu fuis au Seigneur là. Tu ne fais pas exprès au Seigneur là. On te dit, tu dis, toi-même, tu arrives dans l'entreprise. Tu n'as même pas envie de travailler. Tu es fâché même. Tu dis, non, ici là, les gens sont contre moi. Tout ce que tu touches est béni. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? On dit souvent dans le monde, il y a une bonne étoile dans leur vie. Tout ce qu'ils entreprennent est béni. Ils peuvent connaître des difficultés, mais ils vont s'en sortir d'une façon ou d'une autre. C'est cette faveur-là, la porte d'Issacar. Cette faveur-là dans votre vie. La bénédiction d'accompagne. Si Dieu nous donne dans ses enseignements, parce que Dieu veut que nous la manifestions pleinement. Alléluia. Alléluia. Alors, Salomon aussi a manifesté une telle faveur. Comment ça s'est passé? Quand Salomon est rentré pour adorer Dieu, il a regardé le grand Dieu. Il a vu la richesse qu'il avait. Il a vu tous les biens qu'il avait. Il dit non, moi je ne peux pas lui offrir un bœuf. Il a pris 1000 holocaustes. Il a fait ça de manière solennelle. Il a quitté le peuple. Il est parti se mettre sur une montagne. Il a considéré Dieu. Vous savez, cette considération-là, Dieu ne la demande pas. Vous n'allez jamais voir le Seigneur venir dire, j'ai besoin que vous m'adorez de la sorte. Vous comprenez? Dieu ne le dit pas. Mais c'est toi-même qui dois le regarder et puis savoir. Jésus ne s'est jamais assis et puis dit aux gens, mais vous là-même, donnez-moi un parfum d'albâtre, vous aussi. Un parfum de nard pur, de grand prix. Non! Là, cette bénédiction n'est pas déclenchée parce qu'on va vous dire ce qu'il faut faire. Elle est déclenchée parce que vous-même, vous avez une attitude de considération de Dieu et vous sentez à un moment donné ce que vous allez faire. Dieu ne vous dira jamais en révélation l'acte qu'il vous devez poser pour réjouir son cœur afin qu'il vous bénisse. Vous comprenez, non? Ça ne va pas venir par prophétie. Toi-même, tu dois le regarder puis dire. Quand tu le considères là, qu'est-ce que tu peux faire? Amen. Et cela, je vous ai donné l'exemple. Une offrande ou bien un présent qu'on vous donne parce que vous l'avez exigé, et un présent vous donne sans que vous l'avez exigé, qu'est-ce qui fait plus plaisir? C'est le présent qui vient sans exigence, sans obligation. Si les gens vous exigent à ce que vos subalternes vous font des cadeaux, vous fassent que vous exigez cela, s'ils le font, bon, quel honneur y a-t-il? Mais si des gens librement, sans que vous les ayez contraints, le font, ça touche votre cœur. Amen. Alléluia. Si tu me suis, tu vas claquer les doigts. Amen. Et c'est cette attitude-là que Salomon a eue. Et cette attitude-là que Isaac a demandé à Jacob. Il dit, je vous ai dit la dernière fois, il n'a pas dit
à ses fils, voilà la recette du plat. Il dit, fais ce que j'aime. Le repas que j'aime. Comment tu vas savoir qu'il aime ça? Comment tu peux savoir ce qu'il aime? Mais les enfants sont partis directement, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Parce qu'ils savaient ce que son âme aimait. Et quand ils l'ont fait, quand Jacob l'a fait, la bénédiction est sortie. Dieu ne te dira pas la recette de ce qu'il aime. Je ne veux pas te donner ici une formule pour dire voilà ce que Dieu aime. Dieu aime, quand tu te réveilles à 3h30 pour prier, là, Dieu est content. À 3h35, il n'est plus trop content. Donc, prie à 3h30. Vers 6h du matin, quand tu vas prendre ton petit déjeuner, là, à un moment donné, Dieu veut que tu cries Alléluia 3 fois. Tu cries Alléluia 3 fois. Dieu aime ça. Donc, Alléluia 3 fois. Vers midi, 55. En ce moment-là, à 1055, juste, tu plonges à genoux. Tu dis gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. En ce moment-là, le cœur de Dieu est content. Non! Alléluia! Il n'y a pas de recette. Amen. C'est pourquoi cette bénédiction, ça va venir, où les personnes vont venir vous expliquer. Voilà la formule. Tu fais la bénédiction là? C'est à 3h33. Débrouille-toi. Mets ta montre à l'heure GMT. Quand la lune est à tel point, en ce moment-là, le cœur de Dieu est disposé à faire une faveur. Et donc, tu as 3h30, tu cries. Non. Jésus-Christ ne va pas te donner une recette. Jésus n'a jamais dit, vous savez, pour ma sépulture, il me faut un parfum de nard. Mais pour sa sépulture, il fallait ce parfum. Jésus a dit, cette femme-là m'a oint pour ma sépulture. Il le fallait. Mais il n'a jamais dit à quelqu'un que c'est ce qu'il fallait. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'ait suffisamment observé, qui l'ait suffisamment honoré, qui le respecte suffisamment, pour que cette personne reçoive dans son esprit ce qu'il fallait faire. Amen. Amen. Je vais vous expliquer. Vous connaissez le temple de Jérusalem? Vous connaissez le temple de Jérusalem? Le grand temple de Salomon. Vous le connaissez, non? Cet endroit-là, David, dans sa vie d'adoration, Dieu n'a jamais demandé qu'on lui bâtisse un sanctuaire. Jamais. La seule fois qu'il a fait, il a dit à Moïse, construis-moi le tabernacle. Et Dieu a aimé le tabernacle. Il y avait la présence de Dieu dans le tabernacle. Mais ça, c'est venu de David lui-même, lui seul. Un matin, il s'est levé et dit, mais Dieu, moi j'habite dans une maison luxueuse. Et l'âge de mon Dieu est sous une tente. Niette. Il n'y a pas une prophétie. Lui seul. Il dit, je veux construire un temple à la gloire de mon Dieu. Offrande volontaire. Quand vous lisez toute la Bible, le seul endroit biblique qui est resté sacré jusqu'à ce jour, c'est là où David a bâti le temple. Vous comprenez? L'âge, le tabernacle que Moïse m'a fait construire, on ne sait même pas où il est parti. Il y a des endroits où l'ange s'est arrêté. Le mont Sinaï, où l'ange s'est arrêté. Il dit, cet endroit-là est sacré. Ça, c'est Dieu même qui a décrété. Suivez-moi très bien. Jusqu'à ce jour, les gens marchent là-dessus, mais on ne sait même pas. Mais si vous partez à Jérusalem aujourd'hui, les chrétiens du monde entier, les juifs, tout le monde va vers un mur. On dit le mur de lamentation. C'est un reste du temple. Dans le monde entier, les hommes considèrent ce lieu comme important. Même les musulmans, lorsqu'ils ont pris possession de Jérusalem, quand le temple était cassé, ils ont vite construit une mosquée là-dessus. Ce qu'on appelle la mosquée d'Omar. C'est voilà le gros palabre. Et en même temps, ils l'ont décrété troisième lieu saint de l'islam. C'est fini en même temps. C'est-à-dire, si vous tuez, vous avez affaire à ce lieu-là, tous les musulmans du monde entier sont contre vous. La mosquée-là, c'est le troisième lieu saint. Je dis, mais les gens ont construit un temple dans le monde entier. Vous promenez, c'est où ils ont construit là, vous voulez construire une mosquée, et puis vous décrétez sa troisième lieu saint. Amen. Donc, on ne peut pas toucher. C'est le qu'on appelle, on dit, l'esplanade des mosquées. Il y a toujours palabre là-bas. Mais cet endroit-là, c'est pas que Dieu avait un regard particulier là-dessus. C'est David qui a fait. C'est pas une prophétie qui dit, ainsi parle l'Éternel. Voilà ce que j'aime, David. David a regardé Dieu. Il dit, je vais faire un temple. Dieu dit, non, David, c'est pas toi qui vas le faire, mais ton fils doit le faire. Quand le cœur de Dieu a été touché par leur offrande, tellement Salomon et puis David, dans le temple, là, ils ont donné ce qu'ils avaient de meilleur. Tout ce que leur richesse, tout ce que leurs mains avaient pu acquérir comme richesse, les ustensiles étaient en or. Chaque élément, les boucliers, les gens qui étaient habillés pour faire le service. Quand Salomon a fini de faire ça, Dieu lui a apparu la deuxième fois. Dieu a été choqué dans le ciel. Il dit, quoi? Amen. Cet endroit-là, qui est venu
d'un désir d'une personne est devenu l'endroit le plus sacré au monde. Plus que le mont Sinaï ou même où Dieu est descendu. Vous me suivez? Dieu est plus glorifié par l'adoration qui vient d'un serviteur libre que par ce qu'il exige de quelqu'un. C'est-à-dire, si Dieu te dit, prie-moi, et puis tu pries. Et puis Dieu t'a rien dit, et puis tu pries là. C'est ça qui est plus bon. Vous me suivez, non? Alléluia. Si tu suivais comme ça. Alléluia. Et là, c'est un principe essentiel dans la manifestation de la clé de David. Maintenant, abordons plus en détail ce de quoi je vais parler aujourd'hui. Mais cette bénédiction-là, pour pouvoir en jouir, pour pouvoir la manifester, pour en jouir, il faut, comme vous avez pu le constater, dans les offrandes de David ou de Salomon ou de cette femme-là, l'attitude de respect de Dieu, il faut l'avoir. Amen. Lisons ce passage-là. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Il est dit, on a déjà lu ce passage. Lisons plutôt Hébreux chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 15. Il est dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. Donc c'est la suite, il continue toujours par rapport au mot veiller. Il dit, donc veillez encore à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. Dis avec moi profane. Profane. Il dit, ni profane comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Amen. On dit, veillez à ce que les hommes ne soient pas impudiques de peur d'être privés de la grâce de Dieu. Veillez à ce que les gens n'aient pas de mauvaise attitude. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu par son attitude. Et il va citer que on peut être privé de la grâce de Dieu. Le conseil qui est donné par l'auteur aux Hébreux est un conseil qui est donné à des chrétiens. C'est une lettre qui est adressée à l'église. Et il dit, veillez à ce qu'au milieu de vous, les gens ne soient pas privés de la grâce de Dieu. Mais ils peuvent s'en priver comment? De la bénédiction. Il dit, ici différentes choses. Il dit qu'il n'y a pas d'amertume. L'amertume prive. Il dit qu'il n'y a ni débauché, ou bien qu'il n'y a pas des impudiques. Et il continue qu'il n'y a ni profane. Veillez à ce qu'il n'y a pas de profane comme Ésaü, qui après sa profanation, c'est quoi? Son acte profane, c'est d'avoir méprisé le droit d'aînesse. Il dit, il a méprisé le droit d'aînesse. Il l'a considéré comme vil. Et après quoi? Il a réclamé la bénédiction. C'est de cette bénédiction dont nous parlons. J'ai dit, Jacob a hérité la bénédiction. Ésaü, c'est le frère de Jacob. C'est à Ésaü que la bénédiction était destinée. Mais ce n'est pas la bénédiction même qu'il a méprisée. Est-ce que vous me suivez, non? Ésaü n'a pas méprisé la bénédiction. On a vu qu'à la période, il s'est battu avec son frère pour la prendre. Et il a été rempli d'amertume quand son frère seulement qu'il a eu. Donc lui aussi cherchait la bénédiction. Mais ce qui a fait qu'il n'a pas pris la bénédiction, c'est le comportement qu'il a eu avant. Il dit, il a méprisé le droit d'aînesse. Et comme il a méprisé le droit d'aînesse, au temps de la bénédiction, il n'a pas eu la bénédiction. On dit plus tard, reprenons le verset attentivement. Il dit, à ce qui n'est ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il l'ait sollicité avec larmes, malgré ses larmes, malgré ses cris, oh Seigneur, bénis-moi, il n'a pas été béni. Nous sommes en train de crier pour être béni, mais il y en a qui peut ne pas être béni. Pourquoi? Parce qu'il méprise certaines choses. Des choses qu'il considère qui n'ont pas de valeur. Lisons un peu l'attitude que Ésaü a eue. Allons dans le livre de la Genèse, s'il vous plaît. Genèse chapitre 27. Pardon, Genèse chapitre 25, pas 27, 25, 25. Genèse chapitre 25, verset 27 à verset 33. Il dit, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob.
Alors Jacob donna à Ésaü un pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. La bénédiction lui était destinée. La bénédiction était destinée. Mais l'attitude profane. C'est quoi un profane? Dites-moi, c'est quoi un profane? Dans la vraie définition, un profane. Un ignorant, quelqu'un qui n'est pas initié dans un domaine, très souvent, d'abord dans un domaine sacré. Dans un domaine sacré, en fait, un domaine religieux, un domaine initiatique. Quelqu'un qui n'est pas initié, quelqu'un qui ne comprend pas les rouages, qui ne connaît pas les secrets, on dit que c'est un profane. Le mot profane va encore plus loin. On parle de profaner dans le sens de bafouer, n'est-ce pas, des choses qui sont sacrées. Alléluia. La définition de profane ici, donc, montre que Ésaü ne comprenait pas les choses qui avaient de la valeur pour Dieu. C'est en ce sens qu'il est profane. Deuxièmement, il est profane parce qu'il a méprisé les choses de Dieu. Mais quelle était l'attitude d'Ésaü? Et je veux vous parler de la part du Seigneur parce que je veux veiller à ce que personne ne soit privé de la bénédiction. La bénédiction est là, il y en a qui vont se priver. Tout simplement parce qu'ils sont profanes. Ils sont profanes. Mais profanes sur quoi? Est-ce que, Ésaü a méprisé la bénédiction? Non. La bénédiction là, il la voulait, il a failli même tuer son frère à cause de cette affaire. Amen. Mais il a méprisé une chose qui paraissait pour lui très banale, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Il dit de toute façon, qu'est-ce que ça fait? Il avait faim, on lui a présenté des lentilles. Il dit, mon frère, j'ai la dalle. Mais s'il a pu marcher même pour arriver là, c'est qu'il n'était pas prêt de mourir, lui aussi. Amen. Il dit, petit frère, j'ai la dalle. Le petit frère dit, il dit, ah, si je te donne ça, que c'est moi qui suis le grand frère maintenant. Il dit, quelle affaire de grand frère? Droit d'aînesse. C'est à cause du droit d'aînesse. Prends le droit d'aînesse là. Est-ce que dans la vérité, ça va changer nos âges? Je suis ton grand frère. Bon, tu te prends le droit d'aînesse. Il dit, non, faut me le jurer. Il faut que tu prononces. Il dit, bon, je le jure, à partir d'aujourd'hui, tu as le droit d'aînesse. Tu es l'aîné. Maintenant, donne-moi, j'ai mangé. Il a mangé. Ce jour-là, Dieu a regardé Ésaü. Et Dieu l'a disqualifié. Il a dit, celui-là, il ne va pas hériter de ce qui était pour lui. On n'a pas dit que Ésaü était un adultère. On n'a pas dit que Ésaü n'était pas un croyant. On n'a pas dit que Ésaü n'adorait pas Dieu. Qui ne croyait pas en Dieu? Leur père les avait éduqués dans la crainte de Dieu. Dans aller à l'église, prier, jeûner, veiller. Bon, il n'y a pas l'église, mais vous comprenez de quoi je parle. Alléluia. Mais Ésaü n'avait pas une bonne attitude. Les choses sacrées, il s'en foutait. Il était tellement habitué à ça. Vous savez, trop de gens banalisent les choses importantes et ne savent pas que le fait d'être profane, ça coupe la bénédiction. Le fait d'être profane, le fait de ne pas avoir de la considération des choses de Dieu. On ne peut pas essayer d'impliciter. Des gens qui croient que dès qu'ils ont fini de... Tu ne commets pas l'impliciter, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne triches pas. C'est fini. Là, Dieu est obligé de te bénir. La bénédiction va me suivre. Quoi? La bénédiction ne suit pas. La bénédiction... Je vous ai dit la dernière fois, l'enseignement du mardi, j'ai parlé d'être agréable à Dieu. La bénédiction d'Issaka n'est déclenchée que par les gens qui touchent l'âme de Dieu. C'est quand Dieu est content, Dieu parle. Il y a deux façons de l'avoir, j'allais oublier. Il y a l'avoir par héritage, c'est-à-dire... Un père a été tellement bon dans sa vie, il a fait des choses qui ont touché le cœur de Dieu. Dieu l'a béni. Il peut communiquer cela à son enfant. C'est-à-dire, l'enfant, même sans faire d'effort, va voir qu'il grandit à la faveur. Cette bénédiction-là peut ne même pas être accordée à ses autres frères. Et puis, il y a une seule personne dans une famille. Tous les autres jours, lui réussit. Ou bien dans une famille, vous voyez, dans cette famille-là, tout le monde réussit. Amen. C'est très souvent des personnes, leur père, leur arrière-grand-père, qui a posé des actes qui ont pu toucher le cœur de Dieu. Donc, il y a cette façon-là. Mais cette façon ne va pas forcément vous amener très loin. C'est seulement une grâce, vous allez vivre de temps en temps avec ça. Parce que les parents que vous avez eus ont aidé des gens, manifesté des choses qui ont déclenché cette faveur-là dans leur vie. La deuxième façon, c'est que vous-même, vous la provoquez. Amen. Vous la provoquez sur votre vie, elle commence par vous et elle descend sur vos descendances. Vous la communiquez. Isaac portait cette bénédiction. Il avait hérité de son père. Il fallait maintenant qu'il la porte à un de ses enfants. Et Ésaü, à qui était destinée la bénédiction, l'a méprisé par son attitude. Il a été profane. Il y a deux sortes de personnes profanes. Alléluia. La première sorte de personnes profanes, donc qui se privent de la bénédiction, de la porte d'Issacar, c'est qui ferment la porte d'Issacar, qui ne loue pas pour vous, c'est ceux qui banalisent les choses consacrées à Dieu. Ils banalisent les choses consacrées à Dieu. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Amen, 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 amen. Des gens qui banalisent les choses. Qui banalise tout ce qui concerne Dieu. Et il y avait des personnes comme ça. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 12 au verset 17. Suivez. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. » Et il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Amen. Dis avec moi, très grand péché. Voici le péché. Il dit, parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. Les offrandes qui étaient faites, les sacrificateurs, en fait, c'est eux à la fin qui mangeaient. Vous suivez, non? Ça leur était. Cela n'est pas destiné. C'est seulement ceux qui sont donnés d'abord à Dieu. Quand c'est consacré à Dieu, le sacrificateur avait sa part. Et ces enfants-là, ayant grandi dans cette atmosphère, on se dit, bon, mais de toute façon, nous on mange. Mais de toute façon, ils font cuire toujours la viande grillée, là. Moi, ça ne me plaît pas. J'ai envie de les mettre dans la sauce. Vous me suivez, non? Quand les gens venaient faire le sacrifice, on sacrifiait, l'animal était cuit. Amen. C'était brûlé. Et le sacrificateur avait sa part. On prend son de nos autres. Amen. Il y en avait par contre qu'on devait brûler jusqu'à la cendre. Mais une bonne partie leur était destinée. Et là, comme ils étaient sûrement fatigués de manger de la viande grillée, ils venaient maintenant, au lieu d'aller au marché, s'acheter leur propre viande pour faire ce qu'ils veulent. Ils prenaient l'offrande de Dieu, ils piquaient ce qu'ils voulaient, avant même que cela soit cuit, avant même que l'offrande ait été faite, ils prenaient ce qu'ils voulaient et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Ils méprisaient l'offrande de l'Éternel et Dieu estimait que leur péché était grave. Alléluia. Et dans le même livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 27 au verset 35, je vais lire à partir du verset 30. Là, c'est un prophète qui est venu prophétiser sur Élie et sur ses enfants. Il dit, verset 30, « C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé. » Amen. Alléluia. Ils ont méprisé comment l'Éternel? En méprisant les offrandes qui lui étaient apportées. Trop de gens sont négligents dans les choses qu'ils ont l'habitude de faire pour Dieu. Ils ne savent pas que c'est une attitude profane. Ils ne savent pas que c'est une attitude profane. Dieu est grand. Et vous voyez, la femme qui a porté le parfum d'Albat a considéré qui était Jésus. Quand vous venez au culte, quand vous priez, sachez que vous priez Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas ton petit camarade. Ce n'est pas parce que tu viens au culte tous les jours que tu ne vas pas avoir de considération pour tout ce qui le concerne. Esaü, pardon, n'a pas méprisé la bénédiction. Il a méprisé le droit d'aînesse. Mais le droit d'aînesse, c'est un petit truc. C'est quoi le droit d'aînesse? C'est la petite chose que tu méprises qui t'empêche d'avoir la bénédiction. Les détails dans votre culte, dans votre façon d'adorer le Seigneur, dans votre façon de le servir, dans le respect que vous avez pour Dieu. Comment on dit non, Seigneur, je te respecte. Mais le respect, ça se voit comment? Avant cela, là, moi je crois que Esaü était profane avant d'agir. C'est parce que son cœur brisait les choses. Et quand son frère lui a proposé pour une lentille, le droit de l'air, son frère devait le connaître. Il savait que son grand frère là-même. Sinon, quand tu vois un homme qui est consacré, tu peux lui poser des questions pareilles. Mais il l'a fait. Combien de gens viennent à l'église? Combien d'hommes de Dieu se sont privés de la porte d'Issacar, de la bénédiction d'Issacar? Où Dieu allait prononcer des paroles dans leur vie, tout simplement par leur attitude désinvolte, négligente, méprisant les choses de Dieu. Ils arrivent à l'église comme si c'était dans leur propre salon. Ils n'ont aucune considération pour les choses de Dieu, pour les hommes de Dieu, pour les offrandes. Les gens viennent, ils apportent des offrandes comme s'ils se donnaient un mendiant. Comme si Dieu était en train de mendier. Prenez garde, méprisez les offrandes de l'Éternel. Ça paraît banal. Les gens vont se concentrer. Peut-être comme Esaü. Sanctification, je ne touche pas des femmes. Je suis comme ça. Moi, je suis intègre.
Mais ils sont profanes.
Ils profanent. Alléluia. Alléluia. Et après, la Bible dit, quoi qu'il a demandé la bénédiction avec larmes, il ne l'a pas obtenu. Pourquoi? Parce qu'il avait brisé le droit d'aînesse. Priez, oh Dieu, bénis-moi, bénis-moi, aie pitié, aie pitié. Mais dimanche, on dit les offrandes. Tu fous dans ta poche. L'argent même que tu peux perdre. Que, si tu as perdu l'argent, tu vas oublier. C'est, qui sait? Ah. Et puis maintenant, non, il n'a jamais donné. Passons au culte maintenant. C'est-à-dire, allons au culte. Donc ça, c'était pas le culte. Maintenant, le culte, c'est la prédication et la louange. Les offrandes de l'Éternel. Ah, profane. Dieu, on vient apporter les offrandes au roi de gloire. Il y en a qui vont qu'André, ça va passer dans nos grands. Moi, je pense que peut-être, vous ne connaissez pas, mais demain, pour prendre l'argent, même pour faire une œuvre, pour investir quelque part, je vais prendre le temps de prier. C'est pas mon argent. Les offrandes, c'est l'argent de Dieu. Tu peux prendre ça le matin, on vient, tu es là, tu es content parce qu'on a fait les offrandes. Tu viens célébrer, parce que j'ai besoin d'argent. Il y en a qui sont venus me voir, ah, parce que qu'est-ce que vous faites pour elle? Je dis, quoi? Tu prends de l'argent, c'est pour moi? Moi-même, je ne prends pas crédit dedans. Non, mais c'est au sérieux. Mais c'est une affaire comme ça qui a fait que les ils étaient sacrificateurs. C'est une affaire comme ça qui font que beaucoup d'hommes de Dieu, ils sont maudits. Ils prennent les offrandes avant pour eux. Les gens qui arrivent, donnent à Dieu. Toi, tu prends, tu laisses la tête.
Toi aussi.
C'est vrai que quand c'est consacré, ça va servir à votre placement, ça va servir à faire l'œuvre de Dieu. Mais prends-le avec déférence. Quand les gens ont fait l'offrande, ils n'ont pas donné au pasteur, ils ont donné à Dieu. C'est ce que le peuple faisait. Ils amenaient le sacrifice à Dieu. Mais le sacrificateur était pervers. Dieu a considéré le don qu'ils ont fait à Dieu. Mais lui, son attitude, il a été jugé. Les sacrificateurs ont été jugés. Beaucoup de jeunes hommes de Dieu sont tombés dans ces dérives. Il y en a même, ils n'ont pas fini de prier pour l'argent. L'offrande est venue. Ils disent, mon frère, tu peux aller, donne-moi. L'argent vient, il plaît. On va parler d'un homme de Dieu, je le sais dans un livre. Tellement il était avide d'offrande. Il est venu, et puis il y en a qui sont comme ça. J'ai vu, je suis dans le ministère, j'ai rencontré des hommes de Dieu. J'ai rencontré des choses abominables. Des gens qui arrivent. Le pasteur prêche. Je suis dans des églises, des hommes que je respecte. Bon, on peut pas dire non, je ne dirai pas de toute façon. Il dit, voilà, l'homme de Dieu vous a béni. Maintenant, faites une offrande pour bénir son ministère. Tu vois, les gens s'élèvent. Ils viennent pour bénir le pasteur. Quand ça va arriver, je vois que lui, il me donne autre chose. Et puis ça, là, très souvent, il peut garder pour eux. Pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Il méprise les offrandes de l'Éternel. Voilà, c'est pour ceux qui reçoivent le sacrificateur, c'est grave. Mais même ceux qui donnent, l'attitude de respect. Ésaü était profane. Les fils du sacrificateur Élie, eux-mêmes sacrificateurs, étaient des gens profanes. Ils méprisaient les choses de Dieu. Ils méprisaient les choses de Dieu. Quand vous arrivez, respectons Dieu. La femme qui a fait le parfum, elle a toujours respecté Jésus. Mais Jésus était les disait aux gens, hein. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Lui, il a son nom. La femme, elle dit, ah, est-ce que vous savez qui est assis dans cette maison? Vous savez qui il est? Le centenier qui est arrivé devant Jésus. Les gens amenaient Jésus pour aller prier pour son serviteur malade. Attends, vous savez qui il est? Lui, là, il n'a pas besoin d'arriver chez moi. Il est Dieu. Vous voyez, ce que vous considérez du Seigneur, c'est ce qu'il va vous manifester. Il dit, tu m'honores, je t'honore. Tu me méprises, je te méprise. Ça va, c'est clair, hein? Dieu, là. On va voir lui. Il ne faut pas confondre avec Dieu. La Bible dit, Dieu est fidèle. Même si vous êtes fidèle, Dieu ne peut se réunir lui-même, il reste fidèle. Il est fidèle. Mais tu l'honores, il t'honore. Tu le méprises, il va te mépriser. Mais quand Dieu te méprise, là, c'est plus dangereux que toi quand tu te méprises. C'est mieux de mépriser quelqu'un que de mépriser Dieu. Dieu. Et Dieu considère les détails. C'est une affaire de parfum qui a fait que cette femme a été élevée. C'est un détail. Une affaire de parfum. Alléluia. C'est des bons venus dans la maison de Dieu. C'est comme si ils sont dans un salon. Frère, c'est Dieu. Dieu. Avant que tu ne naisses, c'est-à-dire que le monde, il a tout créé. Ton cerveau, il t'a donné.
Tu vas arriver dans sa présence, il y en a qui sont là, et puis mangent chewing-gum. Ils sont dans la présence de Dieu. Les jambes croisées là, devant l'Éternel, et les chewing-gum dans la bouche. Tu connais Dieu. Est-ce que quand Esaü a fait ça, Dieu a parlé? Dieu n'a pas parlé. Il attendait au carrefour. Il dit, hein, tu as même besoin de droit d'aînesse. Rendez-vous plus tard. Tu vas comprendre ce que tu viens de vendre aujourd'hui.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
La Bible dit, veillez à ce que personne ne supplie la grâce de Dieu. Je vous parle de la part du Seigneur, mes amis. Ayez du respect pour Dieu. Même quand tu arrives, on dit même l'offrande à Dieu. Tu vois, tu prends ton offrande à la maison. Et tu vois, non? Je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire. Je dis, on ne donne pas la recette. C'est toi-même qui. C'est toi-même par rapport à ton respect. Tu gères les choses, quoi. Et, oh, c'est l'offrande à mon Seigneur. Attention, je vais payer la meilleure enveloppe. Je mets là-dedans la meilleure enveloppe. Je considère que je devais faire un cadeau au chef de l'État. C'est mon papa. C'est mon créateur. Et quand tu arrives, tu vois, vraiment avec du respect, avec de la considération dans tout ce que tu fais. Tu arrives dans la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Son nom est invoqué. Tu peux être dans la maison de Dieu et puis jeter. Tu as fini de manger pour plus tôt, tu jettes les bois ou bien, tu jettes les sachets. Il y a des temples, il y a des églises, vous allez arriver, vous allez voir, il y a plein de sachets par terre.
Est-ce que c'est normal, mes frères? Non, répondez bien.
Non,
vous n'êtes pas d'accord. Moi, je ne veux pas que vous soyez, vous avez mieux vous toucher. Il y a une qui doit le toucher.
Amen. Mes amis, si nous avons agi ainsi,
détournons-nous.
Tout ce que nous faisons dans cette église,
quand je fais, là maintenant, je veux que les gens soient en tenue.
La ponctualité, je le fais pour Dieu, pas pour des hommes.
On est dur avec le groupe musical. Hein. Quelquefois, vous allez voir, tout le monde n'est pas là. Si vous voyez ça dans l'avenir, ne soyez pas offusqué. Parce qu'il y a des principes. Il y a une heure pour prier avant de commencer le culte. Celui qui n'est pas arrivé dans l'heure, il ne chante pas.
Donc, si un jour vous voyez qu'on n'a pas de batterie, tout ça là, on dit pas, au-delà, on n'est pas bien. Comprenez que c'est l'école.
Amen.
Amen. Je dois veiller à ce qu'il ne soit pas privé de la grâce de Dieu. Et qu'en toute chose, on apprend l'esprit de Dieu. Pas méchamment. Dans le but que, il faut, la Bible dit, veillez à ce qu'il n'y ait pas des gens comme Esaü parmi vous, qui méprisent les choses de Dieu. Il faut que, dans la tête de chacun, il y ait le respect de la présence de Dieu. Le respect de Dieu.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Gloire à Jésus.
Amen.
C'est important. C'est important. Vous allez arriver dans des endroits. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Peut-être, tout le monde n'a pas les moyens. Dieu ne vous a pas fait la grâce à tout le monde d'avoir les moyens de pouvoir venir prier à l'hôtel Ivoire. Investir dans la décoration, dans la tenue, dans des choses comme ça. Mais les gens sont dans un quartier, même si le temple en baraque, on bénit l'Éternel, c'est ce que Dieu vous a donné. Mais même là, vous sentez si les gens honorent Dieu ou non, pas. Vous allez voir là, pour entrer dans les temples, les fidèles peuvent nettoyer le caniveau qui est devant la maison. Saleté, saleté. Mais les gens arrivent à l'église, tout le monde s'en fout. Les gens viennent comme ça. Allons à l'église pour prier. Oh Dieu! Tu es bon quand je viens dans ta présence, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es glorieux.
Attends, il a fini. Sachez, il a mangé la chine.
Tu es glorieux.
Si demain on l'a dit tout de suite, le ministre, on dit il y a un DG qui vous visite.
Le DG, pardon, propre.
Le DG est arrivé. Oui, le ministre. Il faut que le coin soit propre. Balayé. Devant le temple, arranger la maison, c'est pour des ministres qui arrivent aujourd'hui à l'église. Profane. Profane. Pourquoi? Vous honorez les hommes? Parce qu'ils ont un titre. Mais votre Dieu, vous ne le connaissez pas. Dieu n'a pas exigé qu'on soit riche. Mais dans le peu que tu as, montre que tu le respectes. Alléluia. Si tu sais faire le bien que tu ne fais pas, la Bible dit que tu as péché. Amen. Moi, je dis, mais si. Comme on n'aime pas les moyens, on dit aux hôtesses, tout le monde n'a qu'à faire, on n'a qu'à. Pour notre Dieu. Dans le monde, vous partez dans des endroits, c'est pour avoir l'argent seulement. Hein. Mais tout le monde est bien habillé, l'endroit est propre, tu arrives, même les carreaux sont cirés. Ça, c'est pour le monde. Mais pour Jésus, pourquoi on ne peut pas faire ça? Amen.
Amen.
Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Amen.
Pourquoi dans la maison de Dieu, on va te donner le désordre? Pourquoi dans la maison de Dieu, on va faire n'importe quoi? Pourquoi? Amen.
Alléluia.
Si tu es d'accord, frère.
Ah, mes amis, Vous savez, nous parlons des choses qui sont importantes. Ne vole pas, ne tue pas. Mais la bénédiction, c'est juste une considération qui peut la faire rater. Juste un manque de respect. Juste un manque de considération. Je ne dis pas pour vous condamner. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, respectons Dieu. Tu prends ton temps, tu coupes ton portable avant d'entrer. Tu rentres dans la présence de Dieu. Ton portable ne sonne pas devant le roi. Quelle que soit la personne qui t'appelle, il n'est pas digne que tu décroches devant le roi ton portable. Qu'il soit, dis-moi qui il est. On est dans les chefs de l'État.
Toi, tu rencontres le roi des rois.
Il n'a qu'à attendre, tu le mets sur le portable. Excusez-moi, je suis dans la présence de Dieu. Plus tard, je vous prends. Plus tard. Quand vous voyez les gens qui ont reçu la bénédiction, regardez les gens comme Daniel. Regardez leur vie. C'est les détails. La crainte qu'ils avaient de Dieu. Ils respectent le roi. Mais Dieu, fais attention. Dieu, une affaire de nourriture. Il dit, ils ne mangent pas la nourriture qu'ils estiment qu'ils ne glorifient pas Dieu. Amen. Les autres donnent la parole, ils n'ont pas agi pareillement. Mais il y a toujours un acte par rapport au respect que tu as de Dieu. On ne fera pas forcément les mêmes choses. Mais dans le respect que tu as de Dieu, il y a quelque chose que tu vas poser. Et c'est ça qui te déclenche la porte d'Issacar. Tu honores ton Dieu. Tu le respectes. Et quand les gens sont autour de toi, on respecte ton Dieu. Parce que c'est ton Dieu. Tu n'acceptes pas que les gens méprisent ton Dieu. Tu es en train de prier, on respecte ton rendez-vous avec le Père. Toi-même, tu respectes ton rendez-vous avec le Père. Tu ne prends pas Dieu, n'est-ce pas, pour lui donner le reste de ton temps. Tu as fini de faire toute ta journée. Avec les gens, tu arrives chez toi à la maison. Tu regardes la télévision jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin. Et maintenant, tu vas te coucher. Et c'est le restangolo de ton temps que tu donnes dans la prière à Dieu, une prière ensommeillée. Tu arrives, oh Seigneur, je te remercie pour la journée. Mais Seigneur, est-ce qu'on peut manger ensemble du riz et du poulet? On dit, tu dis quoi? Tu dis quoi? Qui a fait des riz pour les autres? Ah, tu dis, non. Je me suis vu pendant que j'ai prié, tu as commencé à rêver, tu deviens dame. Et tu introduis ça dans ta prière. Ah Seigneur, tu commences à prier, tu racontes n'importe quoi. Toute la vigueur de ta journée, tu la donnes à autre chose. Dieu ne dit pas de ne pas travailler. Mais pourquoi quand tu arrives dans sa présence, c'est lui qui donne le restant de ton temps, où tu es fatigué, où tu as sommeil, où tu ne peux rien dire de bon. C'est honorer quelqu'un ça? C'est honorer quelqu'un? Nous tous sommes venus normal chanter. Non, on dit frère, tu vis dans la sanctification? Oui. Je ne commets pas l'adultère et l'impudicité. Tu es un chrétien sanctifié. Mais tu donnes le reste de ton temps à Dieu, les choses qui n'ont pas de valeur pour toi. Profane. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Oh, Dieu m'a venu au culte, le premier culte à 7h30. 10h. Comment tu viens au culte? Tu prends ton temps à la maison. Je me lave. Même si tu n'as pas mis un maquillage, mais il est l'heure. Laisse le maquillage et puis vite.
Amen.
Laisse.
Amen.
Dieu voit que tu le glores. Et son heure, c'est son heure. Tu insistes plus sur son heure que sur ta beauté. Tu insistes plus sur ce qui lui appartient que sur ce qui te concerne. Tu comprends? Peut-être le jour m'arrive, on dit, mais ça, tu n'es pas joli. Hein. Tu dis, j'ai dormi tard la nuit de Samuel là. Je me suis réveillé, il était déjà à l'heure du cul. C'est comme ça que je suis venu. Mais j'ai respecté mon Dieu. En chemin, la main dans la voiture, mais tu fais tout. Si tu penses, il y a deux cultes. Maintenant, tu prends le deuxième culte. C'est le premier culte, tu fais le deuxième culte. Ok, vous comprenez? En fait, tout simplement, c'est juste cet esprit de révérence, de respect, de considération. On a donné l'heure. Pour mon Dieu, je viens à l'heure. Le président Babo te donne rendez-vous. À 7h30. Tu prends ton temps chez toi là-bas. C'est là que tu... Non, tu sais. Quoi? Et puis tu arrives à ton heure comme tu veux, à ta convenance. Quand tu arrives même à... Est-ce qu'on va t'accueillir même? On dit oui, monsieur. Oui, bonjour. Oui, monsieur. J'ai rendez-vous avec le chef de l'État. Vous savez qui? Regarde. Monsieur Norbert. Mais votre rendez-vous était à 10h. Tu as dit quoi là? Et monsieur, il est 10h45. Non, tu sais. Mais c'est ma montre qui m'attend. Non, tu sais, je voulais venir. Mais quand je devais venir là,
J'avais amené, c'est le président quand même. J'ai amené mon habit chez le blanchisseur. Le gars, je dis, je vais prendre le matin. À 10h, je ne peux pas là. On s'en fout. On s'en fout. Tu ne rencontres plus. C'est fini. Peu importe ce que tu as comme argument, on s'en fout. Respecte le chef de l'État. C'est pas ton petit camarade. Si tu dois venir le voir, lave ton habit la veille. Prépare-toi comme tu veux, mais à l'heure, tu dois être à l'heure. Parce qu'il est le chef. Respectons Dieu.
Amen.
Respectons Dieu. Alléluia. On a tous des arguments. Mais respectons Dieu. Respectons Dieu. On a tous des raisons. Qui fait exprès pour que quelque chose lui arrive? Il y a toujours des circonstances atténuantes. Mais respectons Dieu. C'est ce respect-là que la femme l'a manifesté. Quand elle l'a vu, elle dit, c'est qui il est. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé ses pieds. Les autres sont là, oh, la femme l'a fait quoi même? Et ils sont en train de regarder si elle était pécheresse. On dit, mais Jésus même, je ne crois pas qu'elle est pécheresse. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a quelqu'un qui le respecte. Si un pécheur arrive et puis il respecte Dieu, toi qui es saint, tu respectes Dieu, on va l'aurait qui? Hein? Le pécheur arrive, le pécheur respecte Dieu. Toi qui es saint, tu ne le respectes pas. C'est toi, on va chasser. Et puis celui qui respecte, on va pardonner ses péchés. Alléluia.
Amen.
Alléluia. C'est très important, mes amis. Respectons Dieu. Ne soyons pas profanes. Respectons aussi les gens que Dieu a choisis. Tout ce que Dieu a touché. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les oints de Dieu, les autorités établies. N'élevez pas votre voix comme les gens que Dieu a oints. Même s'ils ont chuté, même s'ils sont tombés, respectez-les. Respectez-les. Tu n'es pas obligé de parler. Les gens t'ont maltraité. Laisse ça, c'est pas grave. Vis ta vie. T'as pas que tu es arrivé plutôt dans l'église ici. Je vais passer ça dans l'eau. C'est bien. C'est pas comme dans notre église avant. Le pasteur même, mon frère, viens à l'église, je t'accueille sans problème. Amen. Mais ne m'écoute pas là où tu viens. N'en parle pas. Tu as été frustré, tu as été blessé, tu as été rejeté. Bénis l'Éternel. N'empêche que là-bas, de temps en temps, tu as mangé quand même de la bonne nourriture. Même si après on t'a détruit, respecte-les. C'est pas grave. Tu as décidé que vous ne pouvez pas continuer à marcher ensemble. C'est ton, ton choix. La vie de deux personnes marchent ensemble, ça s'est mis d'accord. Tu comprends que vous n'avez pas la même vision, vous parlez ensemble. Mais ça n'exclut pas que tu peux les respecter tout de même. Je respecte, mais je pars. Je ne vais pas rester là et puis me dire, me détruire constamment, en train de critiquer, d'avoir l'esprit agité. Non, 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 je me retire. Mais je ne vais pas m'asseoir avec les gens pour vous critiquer. Parce que je sais que cet homme-là, c'est Dieu vous envoie. Amen. Alléluia. Respectez les hommes de Dieu. Évitez la familiarité. Parce que vous-même, ça va vous bénir. Dieu m'a dit ça il y a quelque temps. J'étais en Italie quand Dieu me parlait de cela. Et j'ai compris. Parce que j'ai un ami là-bas, nous, on est un peu pareil. Mais moi-même, j'ai commencé à changer. On se dit, bon, pasteur, faites pasteur bonbon. Tout le monde vient, tu ries, tout le monde. Pasteur. Ah, moi, les gens ne t'appellent même plus pasteur. Allô, Momo. Ma belle. Momo, comment tu m'as dit quoi?
Ah, tu sais, hein.
Tu vois? Et Dieu me dit, c'est la peine bénédiction pour la personne. Je dis, mais comment? Il dit, tu vois pourquoi Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles parmi ses parents? Parce qu'il était familier. Et Jésus-Christ a voulu rétablir cela. Parce que quand quelqu'un vous est familier, ce à quoi Dieu vous a appelé, vous ne pouvez pas manifester. Dieu me dit, il dit, tu vois, il te considère comme son ami. Mais toi qui es son ami là, il sait que tu es pasteur, mais il te considère comme son ami. Mais quand tu es son ami, est-ce qu'en tant que son ami, tu peux le guérir? Non. Est-ce qu'en tant que son ami, tu peux l'aider? Non. L'onction qui est dans ta vie ne vient que parce que tu es loin de moi. S'il ne considère plus l'onction, il considère seulement l'amitié. Il ne recevra que ce qu'un ami peut donner. Tu ne pourras plus prier pour lui pour que sa vie soit bénie. Plus jamais. Parce qu'il n'a pas la foi en l'onction que tu as mis sur toi. Il est devenu tellement familier. C'est pourquoi Jésus n'a pas pu faire des miracles parmi ses parents. Quand Jésus est arrivé là-bas, genre, c'est pas lui en jouant au ballon. C'est pas lui, non, faisait un petit poteau là. Donc il arrive, c'est-à-dire, envoyer leur esprit jusqu'au miracle, c'est trop compliqué. Jésus n'a pas pu faire de miracle là-bas. Mais Jésus voulait que ses parents soient sauvés. C'est pourquoi que lorsqu'il était là, maman Marie est arrivée avec l'histoire de maman. Elle dit, ta maman t'appelle. Il dit, dites-lui. Ma mère et mes frères, c'est qu'écoute la parole de Dieu qui la met en pratique. Il a voulu simplement qu'il fasse la différence entre deux choses. Je suis fils, mais je suis loin de Dieu. Si vous ne respectez pas cela, vous ne pourrez jamais bénéficier de la grâce que Dieu a faite dans ma vie. Jamais. Vous ne pourrez pas. Et quand il a fait ça, plus tard, sa mère l'a suivi. Ses frères sont devenus apôtres. Parce qu'ils ont compris. Ce n'était plus l'affaire du petit Jésus qu'on a élevé.
C'est loin de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut éviter. Hein? Parce que le passé n'est rien pour toi. Du coup, maintenant, tu l'appelles comme tu es là. Tu le banalises. Mais tu banalises l'onction dans ta vie. Parce que dès cet instant-là, quand vous devez familier, il dit un homme ne peut pas faire des miracles dans sa propre famille. Maintenant, si toi, tu rentres dans la famille maintenant du pasteur, comment il va faire un miracle pour toi? Vous comprenez, non? On dit un homme ne peut pas faire un miracle. Un prophète ne peut pas faire des miracles dans sa famille. Toi, maintenant, tu es devenu très familier. Quel miracle tu vas avoir? Là, tu as sa famille maintenant. Ton pasteur ne peut plus être pour toi une source de bénédiction. Dis donc, on se connaît. On a fait le CP1 ensemble. Même frère CP1. Après CP1, là, Dieu l'a. Ouais. Alléluia. Et Dieu lui a donné un mandat. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Il faut respecter. Si c'est ton ami, fais la différence. Il y a l'amitié. Quand vous riez, vous causez un ami. Mais quand on rentre en tant que serviteur de Dieu, je respecte l'onction que Dieu a déposée en toi. Amen. Alléluia. En tout cas, Dieu m'a beaucoup parlé de cela. C'est pourquoi maintenant, je dois veiller à ce que personne ne soit profane. Non, c'est pas dit que je suis pas accessible, hein. Non. Mais, ça, si Eric trouve vous, c'est pas bon. J'ai compris qu'il faut pas laisser les gens rentrer dans les 3 mètres. Tu leur fais pas du bien. Amen. Alléluia. Bon, je dis ça parce que l'ami dans lequel je suis parti, j'ai vu les gens ne les respectaient pas. Moi-même ici, même, on me respecte. En fait, on me respecte parce que je n'ai pas visite aux gens. Non, un pasteur doit rendre visite, hein. Un bon pasteur doit rendre visite. Mais moi, pardonnez-moi si je ne vous rends pas visite. Mais comment dirais-je? Mon ministère est tel que je conçois beaucoup. Et j'ai besoin de beaucoup de temps seul pour prier, chercher la face de Dieu. Donc, les personnes qui évoluent dans un type de ministère comme ça, si en fait tu passes trop de temps avec les gens, tu perds ce que tu dois donner aux gens. Tu vois, tu as besoin de chercher constamment Dieu pour trouver des révélations, pour comprendre. Donc, ça fait que, en fait, tu ne peux pas tout avoir. Donc, il y a des gens que Dieu appelle, ce sont des pasteurs, des bergers. Pasteur Alain, mon collaborateur, lui, c'est un pasteur. Lui, visite les gens. Amen. On doit travailler ensemble. Vous comprenez? Donc, si je t'ai rendu visite, c'est un événement national. Rends grâce à Dieu. Je rends visite, hein, mais c'est une fois. Dieu t'a appelé. Vous, le Seigneur. Non, c'est pas pour dire que je suis compliqué. Amen. Voilà, j'aime bien. Dame, tout à l'heure, la fête du cul, Dieu salue tout le monde, s'il vous plaît. Alléluia. Bon, j'ai décidé même de le faire souvent. C'est-à-dire, après le culte, je vais saluer tout le monde. C'est vrai que l'homme de Dieu lui-même, il faut rester humble. Mais il ne faut pas permettre aux gens, en fait, de mépriser la grâce qui est dans la vie. Ce n'est pas dit qu'on n'a pas d'amis. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas de personnes avec qui on rit. Mais il ne faut pas favoriser le mépris. Parce que pour les personnes, très souvent, en Afrique, la familiarité rentre très souvent dans le mépris. Dans la non-considération des personnes. Donc, ce qu'il dit, en fait, on n'en tient plus compte. Il parle, on prend ça très banalement. Comme les gens n'arrivent pas à faire la limite entre les deux, il est préférable même de bien la distance jusqu'à ce que les gens aient compris. Si après les gens comprennent, c'est facile. Ils savent quand on rit ensemble, quand on est amis, mais ils savent quand le pasteur est en train de parler, quand l'homme de Dieu est en train de parler, et on respecte la parole de Dieu parce que là, c'est l'homme de Dieu qui parle. Là, on est en train de parler en frère. Là, on est en train de parler en ami. Mais là, maintenant, c'est l'homme de Dieu qui parle et il faut savoir se tenir. Amen. Respecter l'homme de Dieu aussi, c'est aussi respecter son épouse. Vous pouvez pas dire que vous respectez un homme de Dieu et puis vous méprisez sa femme, c'est pas possible. Amen. Alléluia. Ce sont des choses qui peuvent paraître simples. Qui vous paraissent simples. Mais si vous ne respectez pas la femme de l'homme de Dieu, vous ne le respectez pas, vous déshonorez Dieu. Amen. Si tu as compris, il faut acclamer le Seigneur. Dites, on a compris. Amen.
Amen.
Voilà. Et le dernier élément, c'est beaucoup plus proprement ce que Ésaü a manifesté. Il a méprisé les choses que Dieu lui a données. C'est-à-dire, non seulement vous méprisez les choses que Dieu consacre, ça rend profane, mais méprisez les choses que Dieu vous a données aussi, vous rend profane. Dieu a donné quoi à Ésaü? L'aînesse, le droit d'aînesse. Ça paraît quelque chose d'insignifiant, mais pour Dieu, c'est important. Il y a des choses que Dieu va mettre dans votre main. Si vous les méprisez, Dieu ne vous bénira pas. Amen. Alléluia. Même si Dieu vient, la Bible dit que tout don parfait, toute grâce et excellence vient du Père, vient d'en haut. Si Dieu vous donne 1000 francs, c'est un don, il faut le respecter. Amen. Il ne faut jamais prendre les choses que Dieu vous donne avec mépris. Ésaü avait le droit d'aînesse. Il a méprisé le droit d'aînesse. Pour lui, ce n'était pas important. Trop de gens méprisent les faibles commencements. Dieu ne commence jamais avec vous quelque chose de grand. Dieu commence toujours par quelque chose de petit. Et la façon dont vous considérez cela montre que vous respectez Dieu pour le don qu'il vous a fait. Trop de gens méprisent les petits boulots. On vous a donné un petit travail. Respectez ce que vous avez à faire. Pourquoi? Parce que vous respectez Dieu.
Lorsque j'étais étudiant, l'Éternel m'a donné cette leçon. J'étais étudiant encore à Yamsoukro, à l'NSCP. Et j'étais extrêmement désordonné. Quand j'arrive dans ma chambre, j'ai mon pantalon ici, mon tricot est quelque part, en tout cas, tout est mélangé dans la chambre. Et dans cette atmosphère de désordre, je prie l'Éternel. Je suis tombé malade. Je ne sais pas que Dieu commence à me frapper. Je vais à la selle, il y a du sang. Je suis tombé malade. J'avais un hoquet qui n'en finissait pas. Et puis pendant que je cherchais l'Éternel, pendant que je cherchais Dieu, Dieu a crié sur moi. Il dit, c'est dans une maison comme ça que tu me reçois. C'est pas seulement l'église, mais même chez vous à la maison, c'est un don de Dieu. Quand dans l'endroit où vous priez, c'est un don de Dieu, ça doit être propre, ça doit être bien. Il doit avoir de la considération dans les choses que Dieu vous donne. Dieu vous donne un petit boulot, vous partez d'un travail. C'est pareil, minime, mais montrez à Dieu que vous respectez cela. On vous a donné 50 000 francs pour commencer un commerce. Ce que vous faites là, faites le bien. Si tu es en train de vendre à locaux, vends bien à locaux. Tu comprends? N'êtes pas là parce que non, à locaux là, c'est quoi? La bénédiction, c'est devant. La bénédiction, c'est quand je vais avoir un salaire de 1 million. Là, je serai sérieux. Dieu ne va jamais t'amener de 1 million. Le petit local que tu as commencé, c'est 4 000 francs. La manière de voir que tu es propre. La manière de voir quand tu arrives devant, tu pries pour commencer ton commerce. Et tu le prends avec beaucoup de sérieux. Parce que tu sais que c'est un don de Dieu. En fait, que Dieu va t'ouvrir la 6e porte. Vous comprenez cela? Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Dieu lui avait donné d'être l'aîné. Lui, il dit, ce n'est pas important. Que c'est pas ce qui importe. C'est la bénédiction là qui est importante. Le jour où il voulait prendre la bénédiction, on dit niet. Niet. Tu as méprisé le droit d'aînesse. Tu n'auras pas la bénédiction. Parce qu'il savait qu'il avait les faveurs de son père. Il savait que son père le préférait. Il dit, tu veux le droit d'aînesse, prends. Mais l'héritage là, c'est moi qui vais prendre. Et à la fin, il n'a rien eu. Mes amis, ne méprisez pas les choses que Dieu vous donne. C'est ça aussi être profane. Le boulot que Dieu vous a donné, même quand Dieu vous donne 50 000 francs, 100 000 francs, priez. Donnez votre dîme. Rendez grâce à Dieu. Gérez ça avec la sagesse de Dieu. Montrez à Dieu que dans les petites choses, vous êtes fidèles. Si tu fais commerce de paille, même ton commerce de paille, fais-le proprement. Fais-le avec dignité. Fais-le parce que c'est le roi de gloire qui t'a confié un travail. Le travail est petit, mais il t'a quand même confié. Il t'a quand même confié quelque chose. Il a donné aux gens des talents. Celui qui avait le plus petit talent, il dit c'est trop petit. Il a méprisé. Il a mis ça dans le trou. Au dernier jugement, on l'a envoyé en enfer. Mes amis, ne méprisez jamais ce que Dieu vous donne. Dieu te donne un travail. Tu es même chauffeur quelque part. Sois un très bon chauffeur. Ne dis pas, ça c'est pas la bénédiction, c'est que tu méprises son patron, tu parles n'importe comment aux gens, en espérant que demain, tu vas te donner plus grand. Si tu ne fais pas attention, tu dis que je chauffe toute ta vie. T'as dit, mais je ne comprends pas, je suis zélé, je fais ma dîme, je fais tout ça. Tu méprises les choses que Dieu te donne. Elles sont peut-être faibles, mais de la considération. Mépriser les choses que Dieu vous a données, c'est être profane aussi. La maison qui te donne d'habiter, tu habites chez des gens, tu n'avais pas de maison, on t'a reçu quelque part. C'est une faveur de Dieu. Là-bas, comporte-toi bien. Sois honnête, nettoie la maison, sois propre, sois attentionné. Fais pas comme si c'est pas arrivé. Ça là, Dieu t'a regardé. Il ne va pas te donner pour toi. Amen. Si Joseph n'était pas fidèle chez Potiphar, il n'aurait jamais été fidèle. Dieu ne donne jamais la bénédiction en gros. Il te prouve toujours avec quelque chose de très faible. Il te met toujours dans un endroit et te dit, gère ici. Je verrai comment tu vas faire. C'est l'attitude que tu manifestes qui t'ouvre les portes qui viennent. Amen. Est-ce qu'on a compris la parole? On va acclamer le Seigneur. Mes amis, nous allons prier l'Éternel. Vous savez, Dieu ne nous parle pas pour nous condamner, mais Dieu nous parle pour nous rectifier. Dieu nous parle pour nous donner de nous améliorer. Dieu nous parle pour nous apprendre à bien faire. Et je vous dis cette parole-là même, elle est pour moi. Quand je parle du désordre, de vraiment de toutes ces choses-là. Dieu a eu à crier sur moi. Je dis, ah Seigneur, tu prêtes attention aussi à l'autre qui est dans ma chambre. Tu pensais que tu regarderais seulement au cœur. Et il dit, mon fils, dans ta chambre, je viens chaque fois que tu m'appelles et que tu me pries. Si tu sais que je suis là, alors respecte toi-même la chambre où moi, ton Dieu, je viens être avec toi. Donc ma chambre même, j'ai commencé à la respecter. Dans les cabines où je travaillais, c'est moi qui t'ai donné cela. Respecte les gens qui sont là. Respecte le travail. Fais bien ce que tu as à faire. Tu es juste un employé. Sois un bon employé. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous donnera les grandes. Demande à Dieu pardon si tu te reconnais dans une de ces choses. Demande à Dieu pardon si tu te reconnais dans une activité. Non, tu sais, le Seigneur est juste pour te pardonner. Tu ne savais pas cela, tu le fais par ignorance. Mais prends une bonne décision aujourd'hui. Prends une bonne décision pour ton adoration. Prends une bonne décision. C'est une première attitude qui va t'aider à ouvrir, à avoir la clé de David. La considération de respect pour Dieu. La considération pour tout ce que Dieu a oint, pour tout ce que Dieu a consacré, pour tout ce qui le concerne. Ensemble, élevons-nous voir. Crions à Dieu. Parlons à Dieu. Que chacun parle pour sa vie. Ne te culpabilise pas outre mesure. Comprends simplement le message que Dieu te donne. Confesse-toi. Dieu dit, Seigneur, pardonne-moi de m'épuiser les choses. Et apprends-moi à te considérer en toute ta dimension. À considérer ta grandeur.
bénis l'Éternel d'avoir ouvert tes yeux pour comprendre ces choses et appelle-le dans ta vie dans le nom de Jésus. Éternel, nous te présentons nos vies, Seigneur Dieu, reconnaissant nos faiblesses, reconnaissant nos manquements, reconnaissant, Seigneur Dieu, que quelquefois nous avons eu une attitude profane comme Ésaü. Nous avons méprisé les choses qui ont de l'importance. Nous nous sommes comportés, Seigneur Dieu, comme les enfants de Élie, les sacrificateurs. Nous avons géré les choses avec notre propre intelligence. Nous avons fait des calculs. Mais ces choses-là étaient consacrées, Seigneur. Oh Dieu, ces choses étaient consacrées. Et nous les avons considérées, nous avons méprisées. Nous n'avons pas donné du respect à ces choses-là, Père éternel. Et nous avons eu, Seigneur Dieu, une attitude profane. Nous avons profané les choses qui te concernaient. Père, nous te demandons vraiment pardon. Nous nous levons en ton Saint-Nom. Pardonne-nous notre manque de ponctualité. Pardonne-nous, Seigneur, de notre négligence. Pardonne-nous le mépris que nous avons des choses. Et apprends-nous à nous comporter correctement. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à avoir la bonne attitude. Oh Dieu, béni sois-tu Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from here.